Chapitre 5. Je ne fis qu'un bond de Paris jusqu'à Florence. Était-elle là déjà? Allais-je la rencontrer tout à l'heure en sortant dès les premiers pas sur le Lungarno? Était-elle de l'autre côté de la cloison d'hôtel? Les pas, le bruit léger que j'entendais, était-il d'elle? Ou bien au contraire, n'est-elle pas partie? N'avait-elle pas été trop faible pour quitter Paris? Était-elle malade en quelque ville où j'avais passé à toute vapeur? Allais-je continuer ici d'attendre toujours, comme je faisais depuis 4 semaines? Et si je la voyais, n'allais-je pas tomber? La tension de mes nerfs brisée, je m'imaginais que j'allais m'affaisser en un état d'épuisement qui lui ferait pitié. Je m'enfuirais confus de ma faiblesse. Je tremblais en ouvrant ma porte. Je me disais que le premier visage que j'apercevrais serait celui de Marie. Je ne pouvais rester tranquille. Les tressauts de mon cœur m'inquiétaient. Il me semblait que je me brûlais et consumais sur place, et que lorsque Marie viendrait, il serait trop tard. J'étais tenté par des puérilités superstitieuses de malade. J'attribuais à tel geste, à telle démarche, une influence sur les événements. Oh, je fus presque bien aise de ne pas la rencontrer. J'aimais mieux tarder un peu, je prendrais des forces. Ce soleil et cette ville aimable allaient me donner de l'équilibre. Je m'adossai à la balustrade du Quai Lungarno Amerigo Vespucci pour regarder les voitures allant au calcine. Puis l'agacement de dévisager toutes les personnes, la crainte de laisser passer Marie inaperçue, la crainte aussi de la voir tout à coup, me brisèrent les jambes et m'entourèrent les yeux d'un petit cercle de courbatures. Je voulus m'aller reposer au jardin Boboli, dont la sombre tache verte sur la colline m'attirait. Mais quand le cocher me demanda où conduire ma seigneurie, je lui dis « Où vous voudrez, suivez les autres ». Et je passais une heure ou deux dans la monotonie des allées des Caxines, la main sur les yeux, me défendant maintenant de voir de peur de reconnaître quelqu'un dans ces voitures. Le lendemain, je flânais dans l'air léger du matin. J'attendais l'heure où s'ouvre le couvent Saint-Marc. La chaleur tombait du ciel ardent, combattait et chassait le petit souffle frais attardé qui, dans la fuite, vous frôlait furtivement le visage. En moi-même, il y avait une guerre de lâcheté et de désir. Tout me portait vers ce couvent. Je mourais de ne plus voir Marie, et le délice de cette rencontre m'épouvantait. Une portion de moi se dérobait et détalait vers Erna, vers Fiesole, ou Vallombreuse, où j'imaginais que, contemplant Florence de loin, et y soupçonnant la présence de ce cher cœur qui palpitait pour moi, je goûterais quelques plaisirs inouïs. Alors, ce serait demain seulement, que je l'approcherais. Mais, arrivé à l'extrémité du Ponte Vecchio, qui m'éloignait, je revins sur mes pas. Non, décidément, je n'irai pas à Erna ce matin. Mais il me restait Fiesole, qui est du côté opposé. Je longeais les offices, j'allais à la poste, je m'attardais sur la place de la seigneurie, un vol de pigeons s'abattant près de moi devant la porte du palais vieux me redonna si vive l'impression de certaines minutes vénitiennes que je sentis ma vie se troubler. Alors il me revint que le tramway de Fiesole partait justement de la place Saint-Marc. J'irai donc jusque-là. Je regarderai tout autour de moi, si je ne voyais personne, je prendrais ce tramway. Et si je voyais, si je voyais, et du diable si je savais ce que j'allais faire. Je passai tout tremblant la petite porte du couvent. La lumière vive frappant les herbes et les rosiers du jardinet et tout autour, les dalles du cloître m'éblouit. J'avançais comme un aveugle ou un fou, osant à peine lever les yeux sur les 4 ou 5 fresques d'Angelico qui sont là, que j'avais chéri l'an passé, et que je ne verrai pas aujourd'hui, je le sentais. Enfin, je pénétrai dans la petite salle du chapitre. C'est là que Fra Angelico peignit sa grande scène de la Passion. La fresque est là, occupant toute la muraille opposée à l'entrée. C'est une peinture divine par la candeur amoureuse. Il y a trois chaises placées devant cette merveille. Je m'assis, me découvris malgré moi. J'éprouvai là, tout à coup, le miracle d'une grande paix, d'un bain frêle avant mes malheureuses confusions d'amour. Pour la première fois depuis que j'aimais, je goûtais une minute de sérénité, je sentais une puissance infinie bénir mon cœur et mon tourment. Tout aime, tout pleure, tout caresse, tout est soulevé ici. C'est un Dieu qui aime, qui pleure et qui caresse. Il n'y a point nulle part de plus douce volupté qu'entre ces quatre murs étroits d'un couvent de dominicains. Je désespérais de pouvoir regarder les peintures, mais ces peintures-là viennent à vous. Ce sont des images, des linges frais que l'on vous pose sur le front, ce sont des fleurs répandues, des baumes que l'on vous applique, des parfums que l'on vous donne à respirer. Là, j'attendis Marie doucement. J'étais disposé à l'attendre des heures et des journées. Un peu de l'atmosphère qui l'entoure était là déjà. Toutes les choses très amoureuses ont un peu même odeur. Il le faut puisque ces figures me donnaient la paix qui me serait venue de tenir mon ami dans mes bras. Jésus, ce beau Christ effilé, presque élégant, que le bon moine épris a voulu faire reposer sur la croix. Non, souffrir. Le sang n'a pas laissé beaucoup de traces sur ses membres frêles. L'idée de ce Jésus endolori était insupportable au peintre. Tant qu'il l'a pu, il l'a épargné toujours. Il l'aimait trop. La tête blonde, penchée vers la droite, contemple les paupières closes pourtant, les vins Saint-Pieux qui sont là, et le demi-sourire fin de sa lèvre divine semble dire que, ne fût-ce que pour cela seulement, il valait encore la peine de mourir. Ses pâles cheveux lui baisent le front. Toutes les lèvres des bons saints sont avides de le baiser, et l'on dirait que c'est de ses lèvres mêmes que le peintre a modelé le corps tendre de ce dieu d'amour. L'Angelico, grand artiste, n'aimait point la vue du sang qui souille l'harmonie du corps, et les contorsions des martyrs lui répugnaient également. Mais il atteignit le sublime de la douleur, la merveilleuse beauté de l'âme tristement éperdue dans la figure de la Vierge. Nul excès, nulle grimace, à peine des pleurs. Elle n'est pas couchée, abattue, tordue. Elle est debout, sa belle face grave aux lignes immobiles endure le possible. Et tout l'amour humain le voilà dans cette Madeleine aux longs cheveux blonds, qui tout d'une masse se jette embrasser le sein de la mer. J'attendais Marie entre ces murs bénis, en face de ces tendresses célestes. Quel degré d'extase atteindrions-nous ici? Je pensais que nous finirions par défaillir et nous sentirions la vie s'écouler de nous, comme le sang, déjà exténué, de ce Jésus filant en ruisseaux invisibles de ses veines rompues. Et ce serait fait, nous aurions touché notre ciel. Je voudrais garder chaque minute de l'heure qui s'écoulait en cet endroit bienheureux. Ma fièvre, mon attente, l'embrassement de ses peintures, la caresse de l'air délicat qui m'environnait, la chaleur du dehors exaltant les bords visibles des toits rouges et le vert du jardin du cloître, les mouches bourdonnantes et le premier concert des cloches florentines. Oh, ce lieu de paix et de volupté! Ayant entendu des pas, je n'osais me retourner. Je demeurais tapis sur ma chaise, frissonnant et le dos tourné à la porte. On approcha, je me couvris les yeux de la main de peur de voir trop tôt ou me pétrissant une sorte de masque d'indifférence pour le cas infiniment probable où ce ne serait que des étrangers. On fit le tour des cloîtres. On passa devant la porte de ma petite salle du chapitre. On hésita, on n'entra pas encore. C'étaient des pas menus et légers. Je me faisais d'une certitude que c'était Marie. Je sentais son émotion, son cœur qui, à elle aussi, battait violemment. Elle m'avait vu, à n'en pas douter. Elle avait dû changer de couleur et de visage. Sa mère avait pu s'en apercevoir. Elle ne voulait pas dire à sa mère « Entrons là ». Elle attendait que celle-ci vînt d'elle-même. Elle tremblait qu'elle ne vînt point, qu'elle voulut visiter le reste du couvent auparavant. Et si elle venait, elle tremblait à cause d'une inévitable scène de la rencontre. On entra. Je voulais tout saisir au seul bruit des pas. J'interprétais le moindre bruit. Il y eut des hésitations. On s'attardait derrière moi. Le gravier craquait. On piétinait sur place. Je me commandais de ne pas tourner la tête dans la crainte d'une déconvenue. Puis j'eus peur que Marie n'osât point, que son impatience lui fît mal et qu'enfin ces dames s'en allassent, enfin mille puérilités. Je me retournai brusquement en m'imposant de faire quelques signes de surprise si j'apercevais Madame Vitellier. Je ne sais ce que je fis. Madame Vitellier se trouva juste en face de moi. Sa figure était décomposée. Elle m'avait reconnu dès auparavant que je me fusse retourné, et elle demeurait terrifiée des conséquences de son voyage. Je dus pâlir encore en l'apercevant. Je la saluai. Je regardai simultanément Marie. Elle vint tout de suite me donner la main, si spontanément, si vite, que nous en éprouvâmes tous visiblement une secousse vers le cœur. Je voulus parler, ma voix s'étrangla. Nos yeux à tous se mouillèrent et nous demeurâmes assez confus tous les trois. Madame Vitellier, la première, fit émerger là-dessus quelques paroles de politesse touchant leur voyage et le mien. Elle m'interrogea sur les travaux qui m'amenaient en Italie. La pauvre femme n'entendait point mes réponses. Elle était partagée entre la crainte, en m'accueillant, de trahir sa maison et celle de briser son enfant chétive en me repoussant. Ma passion fut si forte que je négligeais de me gêner de ses ambiguïtés et ne vis plus que Marie, anémiée un peu par la maladie, secoué par la minute qui venait de s'écouler. Je lui tendis une chaise et je la baisai les yeux longuement, éperdument. Elle était vêtue d'un costume de laine blanche tout uni et elle avait deux roses à sa ceinture. Son chapeau de paille aussi blanc au bord large garni d'une dentelle retombante portait également une rose naturelle. « J'ai été fort malade, monsieur, dit-elle, et vous avez de la peine à me reconnaître. En outre, mon costume est bien grotesque auprès de ma mine de chiffon. Vous êtes, lui dis-je, une de ces matinées où l'on frissonne encore de l'hiver passé, où il y a un peu de feu dans la cheminée, déjà des fleurs dans la jardinière où l'on ouvre toutes grandes les fenêtres au premier printemps. » Elle sourit à l'évocation d'une de nos heures les plus chères, alors qu'elle m'était apparue chez moi dans sa toilette claire et parmi mes fleurs. Nous nous cueillîmes dans les yeux tout notre passé d'amour, puis instinctivement nous regardâmes par la porte ouverte le poudroiement de cette chaleur tombée des toits de briques sur l'herbe drue du jardin. « Ah ! Fit-elle, Florence et ce soleil !»« Et ce cloître, ajoutai-je, en me retournant vers la passion de Jésus. Elle regarda la figure sublime de la Vierge et l'élan de Madeleine. Elle comprit. Ses yeux s'humidifièrent encore. Elle dit « Ah, je vais mieux !»« Mon Dieu, fit Madame Vitellier, ne sachant que penser de tout cela. Monsieur, ajouta-t-elle bonnement, regardez, je vous prie, si cet enfant n'a pas changé depuis 10 minutes du tout au tout. Les jeunes filles, madame, sont comme les fleurs dont les peintres se plaignent qu'elles n'aient aucune stabilité. Oh, dit Marie. Je dus lui demander tout bas pardon de mes paroles banales. Cependant, madame Vitellier, qui se remettait moins promptement que Marie, demeurait dans une grande perplexité. Il était visible à toutes sortes de petits mouvements saccadés de sa personne qu'elle se demandait s'il n'était pas encore temps de fuir, d'emmener Marie loin de Florence où j'étais. Mais le miracle qui s'accomplissait dans la figure de la jeune fille la retenait. Elle était fort tentée de renoncer à la lutte, de s'abandonner à la destinée. Cependant, la vision sans doute de la figure implacable de son mari lui donnait une brusque épouvante. Elle avait le sentiment d'endosser dans l'instant une responsabilité énorme. On ne lui accordait pas une minute de répit. Mon exaltation empêcha que je prisse pitié d'elle. J'étais si convaincu de la légitimité de mon amour que tout ce combat m'apparaissait plutôt sous une forme burlesque. J'eusse pu, par simple discrétion, faire mine de laisser ces dames et me retirer, provisoirement au moins. Je n'y pensais seulement pas. Je donnais libre cours à mon émotion, je manifestais ouvertement mon bonheur. Et Marie ne se cachait pas davantage. Je ne tardais pas à avouer que ma présence en Italie n'avait pas d'autre but que de parcourir les endroits où nous avions passé ensemble, soit avant de nous connaître, soit après cet inoubliable événement. Marie m'encourageait avec ardeur. Je confessais mon amour. J'y trouvais une étrange félicité, un goût insoupçonné. Cette grande et grave détente m'enivrait à mesure. L'attitude de ma chère aimée bienheureuse, suspendue à mes lèvres, transfigurée et implorant cette pauvre maman terrorisée de son rôle en face de cette scène religieuse de Jésus en croix, dans cette sorte de chapelle, dans la solitude de ce cloître, tout rendait solennel la minute présente. Madame Vitellier, très émue, s'avança tout à coup, me prit les mains. « Je suis touché, monsieur, de la grande sincérité, de la grande honnêteté de vos sentiments. Votre compagnie nous sera agréable. » Je remerciais, fortement remué moi-même, garanti de l'attendrissement par l'étonnement que l'on éprouve à voir le chemin parcouru en si peu de temps. Marie alla silencieusement embrasser sa mère. C'était à elle son aveu. À ce moment, quelques personnes entrèrent et nous quittâmes le couvent Saint-Marco. Nous y reviendrons. Oh oui, 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 nous y reviendrons. Ces dames montèrent en voiture et nous nous donnâmes rendez-vous l'après-midi au jardin Boboli. Je me promenais quelque temps comme un homme ivre dans le mouvement de midi sur la place du Dôme et dans la Via Casaioli. L'âme amoureuse reçoit de ces jardins toscans une étreinte si forte qu'elle s'y débat comme étouffée tout d'abord et ne cherche qu'à se dégager et à prendre l'air. Je songe à nos parcs de France, à mes beaux jardins de Touraine, élégants et fleuris. Ce sont des badinages et des caresses légères, ce sont des rêves aimables, de douces songeries d'amour, mais ici, c'est l'amour même. Le sombre bloc énorme et dur du palais Pitti a pénétré en premier lieu, après quoi vous vous secouez les épaules, vous cherchez en vain des feuillages aériens ou des nuances de fleurs harmonieusement combinées. Mais il faut se laisser prendre par des allées de cyprès noirs et aigus, pareilles à des glaives d'une parade funéraire. Nulle fantaisie, nul caprice, point de jeu ni de mignardise, ainsi que le royal Versailles en ménagea dans l'intervalle de ses grandes attitudes. Ne tentez pas de fuir par un passage dérobé une contre-allée vagabonde. Les cyprès vous mènent, montez entre ces haies ténébreuses. Vous n'êtes plus libre et aussi bien vous éprouvez un charme vif à l'emprise de cette nouvelle angoisse. Quelque chose d'ardent et de fort vous conduit. Au-dessus de vous est l'éclat brûlant du ciel. De courtes échappées vous ont laissé entrevoir les bords lointains de la coupe florentine, des oasis. Vous ne les souhaitez déjà plus. Vous avez senti l'amère jouissance de l'enserrement dans ces feuillages de nuit. Vous voudriez avoir la peur de ces taillis implacables et épais, et que les allées se resserrassent et que vous fussiez à pousser un cri. Adorable jardin de passion, terribles et voluptueuses promenades. Ce fut sur la petite esplanade qui fait la crête de la colline où sont plantés ces jardins que je vis Marie m'attendre à côté de sa mère. Elles étaient assises sur un banc, d'où la vue par une trouée dans les arbres s'étend sur la ville et au-delà. À bon pas, Marie se leva et vint à moi, non de cette allure sautillante qu'elle prenait quelquefois par un reste de gentillesse enfantine, mais on lui sentait le poids de tous ses membres heureux. Je remarquai pour la première fois, je ne sais comment, le mouvement aisé de sa taille. Je n'avais jamais vu jusqu'alors que la façon toujours charmante dont elle était vêtue et le don qu'elle avait de tourner en grâce le plus ordinaire de ses gestes. Mais tout cela n'était que des choses qui s'agrémentaient autour d'elle, pour ainsi dire, comme des arabesques. L'attrait vivant de sa personne demeurait lointain, quasi inaperçu. Je me sentis rougir légèrement en découvrant la souplesse si tiède qu'elle eut à seulement se lever du banc. Elle avait dormi depuis le matin, sa figure était toute reposée, le bonheur d'un seul jour faisait refléter entièrement sa jeunesse. Elle me dit, en me donnant la main, « Eh bien, vous avez l'air intimidé. »« C'est l'effet que ça me produit à moi. » »« Ça, quoi ?» « Ça, vous voyez bien, dis-je. » Nous nous regardâmes avec des yeux presque confus, et le mot de bonheur erra sur nos lèvres l'un et à l'autre, mais nous n'osâmes pas le prononcer. Madame Vitellier m'accueillit comme un sauveur, un médecin qui m'eût rendu sa fille. Elle s'absorbait dans la pensée de cette résurrection, peut-être pour étouffer les inquiétudes que lui causait le parti qu'elle avait pris vis-à-vis de moi, peut-être par le penchant naturel de son cœur de mère. « Mais regardez-la, me dit-elle à plusieurs reprises, la reconnaissez-vous ? » « Oh, tout de même un peu, » et j'ajoutai hypocritement. « Madame, à la vue d'un pays si incomparable, on renaîtrait du tombeau. » « Hélas, » ajouta-t-elle à demi-voix et avec beaucoup de sens, « tous les pays du monde sont peu de choses pour notre bonheur. »« Mais c'est nous qui faisons tous les pays du monde, » dit Marie. « Nous n'avons qu'à ouvrir les yeux quand le cœur va bien. »« Ouvrons-les donc, » dis-je tout bas, du côté d'elle, lui prenant la main à la dérobée. « Pour moi, » repris-je en voix, « je suis plein de superstitions ainsi que tous les pauvres esprits. » Et je ne crois pas seulement à l'action des paysages sur nous et de nous-mêmes sur les paysages, mais à celle de Dieu, qui doit trouver, oh, je ne dis pas un passe-temps, puisqu'hélas, pour sa grandeur, le temps ne s'écoule point, mais, pour le moins, un jeu aimable, en même temps qu'artistique, à nous poser successivement et malgré nous en des lieux plus ou moins harmonisés avec nos sentiments. C'est un plaisir de peintre, ou même de modiste, fis-je, car il y met une fantaisie si vive que les pures règles de l'art en seraient parfois molestées. Oui, je vois plus volontiers une main un peu noueuse et preste d'ouvrière d'élégance, froissant nerveusement les rubans ou les plumes, fondant ses tons à coups de chiquenaude et s'offrant à l'occasion le ragoût d'une harmonie paradoxale, d'un assemblage ébouriffant. Aurais-je cessé d'être convenable ? vous êtes à peine impertinent. Pourtant, c'est ainsi, et par un accord outrageant, que la plupart de nos contemporains est boulevardier, déséquilibré, superficiel et sans culture, viennent s'adosser à ce fond florentin qui est tout ordre, intelligence et rythme, et s'y déclare en pâmoison. Que dire des jeunes mariés qui accourent demander à ces dures murailles, à ces belles lignes sévères, à ces collines noires de cyprès et de lauriers, ou à ces pâles pentes d'oliviers éteints, ou encore à ces tombeaux, l'initiation à la volupté de peluche qui les attend au retour. Ceux-là aussi ont confessé la minute harmonieuse. Ah, que la modiste doit rire en piquant ses chiquenaudes. Mais et nous, dit Marie, allez-vous aussi nous moquer de nous ? Ce rappel à nous-mêmes, dans le moment où l'énervement du bonheur me portait à la frivolité, par une pointe de griserie oublieuse, me redonna si vif le goût de la minute présente que je ne pus tenir en place. Je me levai du banc où nous étions côte à côte, et je fis plusieurs pas de long en large sur la petite esplanade sablée qui était là. Je regardais tour à tour Marie et l'admirable développement du paysage florentin. Un pavement de toits rouges vieillis, hérissé de campaniles et de dômes. À gauche, la pente vert sombre de Bello Sguardo. Les noires murailles de la ville et plus loin l'église du Carmine. Le long ruban de l'Arno brillant sous le soleil. Les verdures des Caxines et un poudroiement de poussière argentée sous le beau ciel, enveloppant au loin les villas et les collines et les arrière-collines échelonnées et pâlissantes jusqu'à d'imperceptibles pentes d'opales paresseuses. « et nous » répétais-je moi-même après Marie, sans oser dire ce que je pensais de nous devant cette ville élégante et sévère, où la lumière joue sur les marbres, où les marbres contiennent de discrètes merveilles et autour de quoi, parmi ces gris jardins d'olives, s'élèvent des villas heureuses, toutes parfumées de roses. Et tout ce que j'avais à dire m'étouffait. Elle me comprit, et fit d'elle-même cette remarque fine. « Monsieur André, dit-elle, puisque vous voyez qu'avec la grâce et je ne sais quoi de spirituel qu'ont toutes les choses ici, il y a un arrière-fond de rudesse qui me fait peur et qui, à vous, je gage, doit vous râper les mains. Je parle de la dure grisaille de la pierre et des arêtes tranchantes qu'ont les campaniles, celui du palais vieux qui est si svelte et terrible. Voyez-vous aussi que tous ces petits trous carrés de fenêtres soient dénués de balcons ? Les balcons adoucissent la rigueur des murailles, n'est-ce pas ? On y sent toujours l'accoudement possible, le baiser à l'air du soir, un peu de rêverie, de confidence, du dedans avec le dehors, qui sèche enfin de l'aise humaine dont sont privées les maisons d'ici. Oui, oui, fis-je, la vie est enclose ici, en quelque chose d'âpre et de rude. Cela semble bien le pays des grâces et des amours. Mais les grâces et les amours, blessés dans le chemin étroit, où leur belle nonchalance s'épandait, gardent au fond des yeux et dans leur énigmatique sourire la trace de la douleur bien-aimée qui donne tant de saveur à la vie. Il faut aimer ces pierres dures, ces lignes impitoyables et ces tranchants des campaniles. C'est ainsi que nous tâchions d'exprimer notre cœur à mots demi-couverts, dont Madame Vitellier pouvait demeurer incertaine de bien saisir le sens. La chère femme, assurément, ne nous comprenait pas tout à fait, mais son instinct lui découvrait que nous parlions d'amour. Elle hésitait à nous laisser verser ces gouttelettes brûlantes par quoi nous nous exaltions peu à peu. Mais d'un autre côté, notre bonheur la rendait bien heureuse. Elle cherchait un compromis. Oh, elle lui donnait beaucoup pour être autorisée à nous permettre de parler. À défaut de cela, je pensais qu'elle se contenterait peut-être de ne pas nous entendre. Nous nous éloignâmes doucement, Marie me donnant le bras. Nous n'avions pas l'air de nous en aller. Du haut des jardins Boboli, une longue allée descend en ligne droite et en pente rapide au bassin de l'îlot qui contient l'océan, le magnifique marbre de Jean Bologne. Cette allée est bordée de statues et de cyprès si hauts qu'elle est sombre et semble couverte. Tout au bout, le Jean Bologne apparaît comme une lumière. Nous ne pûmes résister au désir de nous oublier dans cette allée dès que nous y fûmes engagés. Nous croyions que c'était là que nous allions tout nous dire. Nous faisions seulement « ah, ah » entre nos baisers. Et elle me dit exactement le nombre des jours qui s'étaient écoulés depuis le baiser qui avait précédé cela. Ce n'était pas par journée que je mesurais ces intervalles pénibles. Néanmoins, cette petite chose me fit un grand plaisir. Pendant ce temps, avec ma superstition ordinaire, sans doute bien sotte et puérile, je me fixais là-bas cette belle et blanche statue comme le terme du bonheur. Et je me disais, si nous l'atteignons, Marie et moi, ainsi unis et sans encombre, c'est que pareillement nous sommes destinés à atteindre la suprême félicité. Je n'osais lui confier cet enfantillage. J'étais partagé entre le désir d'arriver vite à ce but fatidique avant que Madame Vitellier ne nous appelât, par exemple, ou bien qu'il ne survînt quelque raison imprévue d'interrompre notre chemin, et le désir plus raisonnable de prolonger ces minutes délicieuses. Marie était suspendue à mon bras et radieuse. Enfin, quand elle put formuler quelques paroles suivies, elle me dit « Oh, André, maintenant tout ira bien, j'en suis sûr. L'événement d'aujourd'hui est si important. Nous pensions à la même chose. N'avez-vous pas le même espoir ?»« Si, si, fille stupide, tenez, mais courons, grand fou, dit-elle. » Le temps m'avait paru si bref que je croyais avoir encore à courir pour atteindre vite le bassin de l'îlot. Mais nous manquâmes de nous y heurter les pieds. « Ah, fis-je, déjà, déjà ?»« Mais quoi donc, qu'avez-vous, voyons, dit Marie. » Je lui confessai ma sottise et nous nous mîmes à rire tous les deux. Mais je ne sais pourquoi je demeurais mécontent, quoiqu'ayant atteint ma statue sans encombre. Était-ce que j'y étais parvenu si vite, si étrangement vite, après avoir cru cette allée sans fin? Était-ce donc que mon bonheur était si près de moi, ne le goûtais-je pas déjà tout entier? Et alors, et après? Ah, misère que vouloir jouir demain plus vivement qu'aujourd'hui! « Marie, lui dis-je, lui serrant les mains et nous asseyant sur un banc. » Elle pencha la tête sur mon épaule et demeura tout abandonnée. Je me souviens que des enfants qui jouaient là nous regardèrent. L'un d'eux s'interrompit. Il courut rejoindre sa mère et nous désigna du doigt. C'était une jeune femme fort belle et qui portait le deuil. Elle leva sur nous ses beaux yeux tristes. Et elle ne pouvait plus nous quitter. Le petit vint, comme de lui-même, à nous. Nous l'embrassâmes. La jeune femme pleurait. Nous fûmes confus et comme embarrassés devant elle de notre bonheur d'amour, et nous nous éloignâmes. Je sens la gaucherie de toutes les choses puériles que je rapporte ici. Ce n'est pas pour être sensé que j'écris, mais pour prolonger mes heures d'ivresse amoureuse. Nous revînmes si tranquillement retrouver Madame Vitellier en remontant notre allée, qu'elle ne songea même pas à nous demander où nous étions allés. Marie lui sauta au cou, toute rose et son chapeau défait dans la secousse. J'aurais bien embrassé, moi aussi, cette bonne femme de maman. Nous prîmes une voiture au Palais Pitti, et revînmes par la promenade des collines, voir terminer le jour à la place Saint-Michel-Ange. Au pied du grand David de bronze, accoudés à la balustrade où l'on embrasse la ville entière, nous nous mîmes à attendre le soir, tous les trois, en causant comme des amis anciens, paisibles et sans arrière-pensée. Qui donc, à nous voir et à nous entendre, se fût douté du lien étrange qui unissait ces trois êtres ? Une fille au cœur révolté, une mère occupée à trahir sa fortune, la volonté du chef de famille et son propre désir secret, qui demeurait à n'en pas douter de voir sa fille accomplir un beau mariage, et moi, la cause consciente et volontaire de ce désordre, sacrifiant corps et âme à l'amour aveugle, insoucieux de demain, attentif seulement à la volupté que peut contenir la minute qui coule, enfin, par-dessus nous tous, la menace planante de cette puissance paternelle à socle d'or et de loi, qui dans l'instant ignorait qu'elle était par nous violée, qui pouvait, qui devait la prendre de main et nous écraserait tous. Jusque même entre nous trois, quel secret enfoui! Nos amours de tout un hiver dont la seule révélation eût anéanti l'entendement de cette femme qui nous souriait dans l'hébétude de son instinct maternel. Nos coudes se couchaient. L'heure adorable passait. Nous aspirions le souffle de cette belle ville mourante. À peine quelques personnes, en se déplaçant, faisaient craquer le sable alentour. La moindre parole prenait un retentissement extraordinaire dans cette grande vallée qui semblait silencieuse. De longues vapeurs teintées de rose passaient sur Florence, baisaient le palais vieux, le campanile de marbre et l'église Sainte-Marie des Fleurs. Elles embrassaient tout à coup aux verrières de Sainte-Croix et, épuisées, s'en allaient s'évanouir en caresses sur les collines de Fiesole et de Valombreuse. Ces jeux de lumière si délicats retenaient nos paroles sur nos lèvres et nous sentions que nos pensées se traduisaient suffisamment par la douce promenade des rayons et des nuances, par leur exaltation soudaine et les nonchalantes hésitations de leur fin. Nous vîmes les collines bleuir derrière le dôme, tandis qu'au couchant, au-delà de l'Arno verdâtre, un incendie solaire éclaboussait les eaux du fleuve d'un semis épais de rubis et d'émeraudes. Puis les jardins de Bello Sguardo s'assombrirent jusqu'au noir, et ces villas et ces cyprès se découpaient avec une netteté parfaite sur le ciel d'oranger et de lilas violets. Blouin, l'échelonnement des collines se dessina en ligne d'une minutieuse pureté. Enfin, tout s'affaissa d'un coup. Florence semblait endormie ou morte. Seul le campanile du palais vieux se dressait, svelte et fort comme une sentinelle pour la nuit. Mais une chanson s'éleva presque en même temps que s'éveillaient les lumières de toute la ville. C'étaient les cloches de Florence, innombrables, pures, argentines et légères, et nous nous regardions tous en souriant. Ces dames étant logées sur le Lungarno à la Casa Santidio, à une centaine de mètres de mon hôtel, j'avais obtenu une chambre donnant aussi sur le quai, et je pus voir le matin la tête de Marie à sa fenêtre. L'inouï, c'est de pouvoir écrire cela, posément, quelques mots, comme une chose simple et naturelle, et de s'imaginer qu'on a dit ce que l'on avait à dire, alors que par ce menu fait on a été bouleversé. Sa tête apparut dans l'air matinal, lourde de la pensée de moi, et baisant ce jour nouveau-né qui allait grandir entre nous deux et qui ne tomberait qu'en même temps que nos membres harassés du plaisir de nos âmes. Le couvent de Saint-Marc fut encore le lendemain notre lieu de rendez-vous. La petite salle du chapitre nous retrouva réunis tous les trois, causant bas à cause de la puissance religieuse des fresques, partant de notre nuit, de nos projets du jour, comme on le fait dans une église, dans l'attente d'une cérémonie. Nous nous regardions, Marie et moi, nous semblions nous dire « C'est cela, oui, c'est cela, c'est délicieux ainsi. J'en venais à bénir la présence de cette mère, à la fois étrangère et complice, mêlée à nos irrégularités, mais ignorante de nos ardeurs secrètes, et qui aidait à son insu le développement de notre passion par la sécurité qu'elle nous donnait contre les excès même de cette passion. Autrefois, seuls, nous avions peur de nous-mêmes, et que nous étions donc à notre aise devant cet ange gardien bénévole. « Il paraît, dit Marie, qu'il y a là-haut des petites salles très belles. »« Oh, oh, dis-je, le peintre angélique qui vécut ici a tressé sur ses murs le plus sublime poème d'amour qu'aucun être humain n'ait conçu. Je cherche en vain, dans les littératures, pareille force, constante et intensité de passion, exprimée avec autant de bonheur et de simplicité. » Mais d'amour divin, souligna Madame Vitellier, qui demeurait accrochée à ce mot inquiétant. Divin, madame, assurément, car je crois que rien ne fut plus éloigné de la naïve pensée du bon frère Giovanni que le souci des passions terrestres. Il évita même, par modestie chrétienne, de jamais faire poser un modèle dévêtu, ce qui est, pour un temps proche de celui où le Guirlandaro, son frère, mettait les dames de Florence toutes nues dans les églises, la marque de beaucoup de délicatesse. Toutefois, l'insigne grâce divine qu'il reçut, ce fut, croyant ne peindre que de dévotes images, d'y exprimer par une intuition merveilleuse tout ce que la tendresse humaine peut enfanter d'élans adorables. Accordez-moi qu'il eut une mère qui sans doute mourut à la peine que son enfance avait réclamée, ou bien qu'il connût quelqu'une de ses jeunes sœurs, pudique et rougissante, parce qu'elle était, comme on dit si joliment, « in vaghita d'amore ». Car autrement, continuai-je, comment t'expliquer qu'un pauvre reclus ait eu l'idée de peindre ceci, dont il n'y a point de parole humaine qui soit capable de rendre le tendre charme et la fraîche subtilité? Nous étions parvenus au haut d'un étroit escalier de bois, et je désignais la première des annonciations que le pieux moine a traitées dans ce couloir. Je n'essayais point de la décrire. Ces dames regardaient. Marie comprenait. La Vierge y était représentée si jeune, si timide, si parfait symbole de candeur immaculée, que l'ange ému de ce que sa céleste mission contient de troublant pour tant de fragilité, rougit lui-même et semble hésiter à parler. Ah, grand Dieu, cette fleur qui reçoit le premier rayon du soleil, ce cœur puéril qui bat, cette divine attention du messager du ciel, porteur d'une si écrasante nouvelle, tant de frôleurs et tant d'immensité. Ce n'est que le commencement, dis-je à Marie. Préparons-nous à faire ici le pèlerinage qui convient à notre amour. Il n'y a qu'amour le long de ces murs. Ils sont tout moites ou tout brûlants, comme vous le verrez. En nul endroit du monde on a aimé mieux qu'ici. Une âme a passé là, assez embrasée pour ravir en sympathie tous les amants qui frôleront ses plâtres. Jésus lui fut son univers, lui tint lieu du soleil, de la mer, de l'attrait des belles eaux qui passent, des nuits poétiques et du sourire de l'aimé. Songez au parfum d'une telle vie enclose. Il appelait Jésus à toute heure, il l'adorait dans son âme, il l'évoquait dans son pinceau, il voyait naître sous sa main son auguste figure. Il s'enivrait de ce que cette figure venait souriante, et il s'enivrait encore des larmes amères qu'il lui voyait répandre. Il s'enivrait de peindre sur tous les visages l'adoration de cette figure. Oui, oui, il l'a aimée et adorée dans chaque visage qu'il a tracé. Autant de fois qu'il a formé un trait, il s'est réjoui de créer un adorateur à Jésus. Quelle vie! Nous étions arrêtés maintenant devant une seconde annonciation, et le chemin parcouru de l'une à l'autre par l'âme du peintre se redressaient en nous-mêmes par la vertu d'une expression simple et claire, par cette contagion éminemment prompte dont sont doués tous les sentiments d'une grande sincérité. Ce qui nous touchait le plus, c'était, après la gêne de la première entrevue céleste, la douce chaleur naissante et l'aise charmante de l'entretien familier que l'on voyait ici entre l'ange et Marie. Oui, on eût dit une seconde visite, où la confidence la plus lourde prenait le tour gracieux d'un agréable épanchement. Les traces de la confusion disparues, ce n'est plus que le bonheur de parler du cher sujet d'épouvante. La jeune vierge, à demi courbée, écoute, respectueuse et ravie. L'ange est bénévole et sourit, et l'on croit surprendre à ses lèvres le nom de l'être immense et bien-aimé qui va remplir ce cloître et diviniser ses murs. Jamais Jésus ne fut plus présent qu'en cette scène où il n'apparaît point, mais où le murmure de lèvres d'ange et le frémissement d'une vierge annoncent l'enchantement que sa personne va causer. Ce ne sera ni le Dieu des petits, ni le Dieu de douleur, ni le juge. Sera-ce le même Dieu d'amour? Mais c'est l'amour. Et j'entraînai Marie dans les cellules où le frère Giovanni a peint la suite de la vie du Sauveur. Ce sont de petites cases désertes et toutes nues. Une fenêtre, une fresque, une chaise. À peine l'espace de se retourner, mais de quoi subir la plus belle émotion du monde. Il y en a une trentaine ainsi. Madame Vitellier eut au fait de trouver toutes ces cellules pareilles, et s'asseyant dans l'une d'elles, elle nous laissa libre de continuer notre visite. Marie, appuyée à mon bras, nos têtes rapprochées, et j'abritai nos yeux de l'éclat du jour en faisant un écran de mon chapeau de paille. Nous recevions en nous, sans oser parler, la piété de ces peintures. De temps en temps, Marie poussait de petits « Ah, ah mon Dieu, ah mon ami !» Jésus était représenté dans chaque cellule, afin que chaque moine vécût de lui. Et à force de suivre la variété des scènes, où la sublimité de sa personne intervenait, il semblait qu'autour d'elle l'atmosphère d'adoration devint vibrante, palpitante, gagna, emplit la cellule et nous souleva. Lui, 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 toujours plus beau, plus caressé, plus aimé. Le bon peintre ne le voulait qu'heureux, magnifique, resplendissant, environné de tendresse et d'admiration. Aussi, dans les inévitables épisodes douloureux, quel affairement, quelle préoccupation, quel malaise, quelle fièvre, et avec quel soin il arrive à faire resplendir si lividement sa face bafouée, souillée de crachats et d'injures, que dans l'impression totale de la peinture, c'est l'image d'un Dieu souverain qui ressort, et nullement celle d'une victime. « Mais c'est nous, dit Marie, notre cœur, notre amour. Voilà le livre, souvenez-vous, le livre que vous eussiez voulu m'envoyer un jour. » Oh oui, ma chérie, oui, mon âme, dis-je en pressant son bras. Je sentis que je ne pouvais plus parler, quelque chose me comblait à m'étouffer. Qui n'a jamais en rêve vu se dérouler les plus doux moments de sa vie sous la forme d'images sensibles, et qui ne s'est réveillé, les yeux humides et le cœur bouleversé, à l'évocation soudaine de la trace qu'a laissée en nous la minute où nous crûmes toucher le ciel. Nous autres, nous passions là devant les symboles parfaits de notre passion. C'était de la façon dont ce Jésus est aimé là que nous nous étions aimés, nous aimions encore, nous haussant l'un et l'autre grâce à la séparation prolongée, aux courtes entrevues exaltées, jusqu'à je ne sais quel ciel, quel trône élevé au-dessus du commun des hommes. Nous reconnaissions dans des gestes, dans des agenouillements, dans des défaillances, de disciples, de madeleines, de saintes femmes, telles et telles de nos attitudes ordinaires. Et ce frêle Jésus, sublime et charmant, pur et condamné, notre lien, notre beau, notre cher lien d'amour. Nous venions de le voir mettre au tombeau, et la fresque suivante où sont les saintes femmes, le cherchant en vain sous la pierre soulevée, nous avait émerveillé par la connaissance qu'eut du cœur humain le génial reclus qui peignit ses murailles. L'une des femmes se fait un abat-jour de la main pour s'assurer, en examinant l'intérieur du tombeau, du prodige accompli. Une autre fait signe qu'elle ne peut en croire l'ange annonçant qu'il est ressuscité. Une troisième, au contraire, reçoit la nouvelle avec une joie et une confiance parfaite. Mais celle qui est en bas, sur la gauche, sourit avec malignité, non qu'elle soit incrédule, non, mais remplie de foi, elle savait qu'il était bien capable de cela, elle sait qu'il en fera bien d'autres. Voilà, dis-je à Marie, le trait de génie, voilà l'adorable naïveté du primitif, naïveté qui n'est que l'observation scrupuleuse ou la sorte d'intuition sûre, ordinaire aux âmes non corrompues. Voilà qui est loin les imbéciles simagrés que l'on prête aujourd'hui à ces bons hommes simples, chez qui le merveilleux ne fut que la conscience honnête, que l'amour de la vérité. Le divin, mon amour, c'est d'être soi-même, c'est d'être capable d'un sentiment spontané, c'est de s'atteindre soi, sous la couche inextricable des éléments étrangers qui nous embarrassent. Nous ne valons, toi, moi, ma bien-aimée, que par l'affirmation que nous faisons de nous-mêmes en dépit de tout. Contre ton monde, contre le monde entier, contre ton éducation, contre ton avenir, peut-être, ma Marie, tu m'as aimée, tu m'aimes, tu t'es grandie autant au-dessus de toutes tes pareilles que ce Jésus s'élève au-dessus de son entourage ou que ce frère Angelico s'élève au-dessus de tous les peintres. Que nous sommes bien ici, dit Marie, et je l'adorais de ne pas chercher à dire autre chose. Mais la fresque que nous aperçûmes en pénétrant dans une dernière cellule faillit nous arracher le cœur. Je ne sais encore, à l'heure actuelle, si le mérite de cette œuvre ne fut pas exalté alors par l'atmosphère surréchauffée que nous portions avec nous durant ce pèlerinage d'amour, mais il nous sembla certainement à l'un et à l'autre que cette image résumait et portait au comble toute la sainte ardeur éparse dans ce couvent extraordinaire. Ah, cela est indicible. Jésus est descendu au limbe. On l'y attend depuis les temps. Ah, que l'on se figure ce qu'est attendre ce Jésus. Toute la beauté, toute la bonté, toute l'âme qui se font en béatitude, la caresse, le baiser, toute la volupté, c'est Jésus. Des malheureux sont entassés sous des voûtes pesantes et sombres, et les siècles passent, or, tout à coup, le voilà, lui, lui. Il ne se fait pas précéder, n'a pas fait annoncer sa venue. Il entre, splendide et prompt comme un soleil, ayant brisé la porte. Ah, quelle entrée royale et divine, majestueuse et plus grande que tous les triomphes! Et il est tout seul, vêtu de blanc, ses grands cheveux blonds sur les épaules, son long nez droit, sa main étendue. Il marche à grands pas pressés, le vent soulève ses plis. C'est un printemps, une allégresse, le jour lui-même, un enthousiasme divin qui pénètre par cette brèche ouverte dans les rochers. C'est lui, lui, comprenez-vous, lui, l'ineffable, le désiré sublime, l'amour, lui. Il a tout conscient de l'immensité de sa personne et de son acte. Ce n'est pas le Jésus grincheux, rechignant, souffreteux, grimaçant. C'est le Seigneur magnifique, plein de l'ivresse de son sacrifice accompli, le porteur de la bonne nouvelle. On l'entend, il dit, c'est moi. Il est simple et fier. Et du fond de la caverne illuminée de sa présence, voici les justes à courir, nullement étonnés et plus admirables par cette foi séculaire. Alors là, il nous fut impossible de nous contenir. Nous fûmes littéralement soulevés et empoignés par la seule impression du colossal désir, de l'immense surhumble amour que cette figure incarnait. Je vois encore ma pauvre Marie qui s'était assise en entrant sur la chaise de bois, se lever et me prendre la main. Simultanément, nous exprimâmes la même pensée. L'entends-tu dire « c'est moi » dans le vent que produit son entrée rapide. Et nous prononcions « c'est moi » avec emphase. Nous pouvions faire autrement, cherchant à rendre la grandeur de ce moi divin que l'on sentait, mais sentait, comprenez-vous, comme si nous eussions nous-mêmes été ébranlés par l'air qu'il déplaçait en marchant. Nous fûmes suffoqués, les lames nous jaillirent. Malgré les va-et-vient du corridor, nous ne fîmes pas un effort pour nous contraindre. Les bras autour du cou, enlacés complètement, sans autre conscience que celle de l'ivresse de pleurer, nous demeurâmes, oh là, je ne sais combien de temps. Ce fut Madame Vitellier qui nous rappela à la vie en nous touchant doucement du doigt. Nous étions trop profondément éperdus pour qu'il nous restât la force de nous émouvoir de cette circonstance singulière. L'idée même de la scène dont Madame Vitellier avait été témoin ne nous alarma point. Nous n'avions pas eu l'intention de nous cacher. À la vérité, la présence de Madame Vitellier nous eût peut-être retenu de nous laisser impressionner à ce point. Mais à supposer que cela cependant se fût produit, nous nous serions certainement embrassés devant elle. Notre mouvement fut de lui tendre la main, puis Marie passa de mon cou à celui de sa mère. Celle-ci levait les yeux au ciel dans l'attitude d'une grande résignation, ainsi qu'elle l'avait fait la veille, lors de notre rencontre dans notre petite salle du chapitre. Toutefois, la raison de se résigner était plus forte aujourd'hui qu'hier. J'entrevis que le sentiment de la responsabilité immense qu'elle assumait se livrait avec son bon cœur à une lutte si tumultueuse que la pauvre femme en était écrasée littéralement. Je lui avançai promptement la chaise unique que Marie avait occupée. Elle s'y affaissa. Marie avait des selles, elle les tira d'un petit étui de cuir dont je remarquai l'élégance. Elle dit, inconsciemment, en portant le flacon aux narines de Madame Vitellier, « Heureusement que j'en porte toujours sur moi depuis que j'ai été malade à la campagne. » Je pâlis tout à coup. L'idée que cette boîte de sel était un présent de M. Harrigan se présentait à moi soudainement et comme irréfutable. Pour la première fois depuis mon arrivée à Florence, je repensais aux diverses circonstances de ces 6 semaines mortelles passées par Marie à la campagne. Je revis la promenade après la pluie sur la route, la faiblesse subite de Marie, la brouette du cantonnier, enfin, le providentiel, M. Harrigan et ses selles. Toute l'ivresse de notre matinée s'écoulait au seul soupçon que Marie portait sur elle un présent de cet homme, que quelque chose venant de lui ne lui répugnait pas. Et cela, grand Dieu, dans le moment même que j'étais en train, moi, de prendre la place de cet homme dans l'esprit de cette malheureuse mère, à demi évanouie. Je ne savais seulement pas si réellement cet étui était un cadeau. Hélas, Marie ne tarda pas à confirmer mon soupçon. Elle avait aperçu mon trouble, tout en secourant sa mère. Elle vit mes yeux stupides attachés à ce maudit flacon. « Oh, c'est cela, dites-le bien, mon ami, je vous croyais au-dessus de ces sottises. » Première parole amère, et que j'ai 100 fois méritée. Elle était entrée comme un poison par la plus fine des piqûres. Elle coulait dans mes veines, elle faisait son chemin. Longtemps après, quoique apaisé, revenu de ce moment de susceptibilité imbécile, je la sentais sous 1000 formes m'atténuer et me parcourir. Oh, anodine, acclimatée en mon sang, à mon tempérament, ma, je la sentais, elle était là, je la portais, des nuances coloraient ma vision que j'ignorais la veille. D'ailleurs, il ne fut plus question de cela, du moins en tant que sujet d'amertume entre nous. Madame Vitellier, revenue à elle, l'émotion de sa santé remplaça heureusement le souvenir de l'émotion qui avait ébranlé sa santé, et nous pûmes même poursuivre la visite du couvent de Saint-Marc par la cellule de Savonarole. Contraste étrange. Côte à côte avec la douce tendresse du bienheureux frère Angélique, tout près de ces images de bonté, d'amoureuse extase, de sourire et de tendre sensualité, la grossière figure de cette grande brute, de ce bourreau de la beauté, de cette borne contre quoi la divine splendeur de la lumière du soleil vint se heurter sans seulement la tiédir. J'éprouvais en pénétrant chez Jérôme Savonarole une sensation de froid aux épaules qui aggrava ma méchante humeur. Marie, qui ne pensait qu'à celle-ci et qui, préoccupée, avait contemplé sans le voir, je suis sûr, l'affreux visage du moine que l'on conserve là, se pencha à la fenêtre. Le soleil ardent inondait ses cheveux de paillettes d'or. Ses grands yeux qui venaient de pleurer se fixèrent sur moi par un retour vif de la tête et d'un geste dont la promptitude tenait de la prestidigitation, elle retira de sa poche le petit étui élégant, me le fit voir et le lâcha dans le vide. Elle fut si fort retournée que personne hormis moi ne soupçonna le manège. Je voulais l'en applaudir, je lui dis effectivement merci tout bas. Mais la vérité était que le cœur me manquait, et pour une raison qui est bien encore la plus stupide du monde, c'était à cause de l'extraordinaire adresse du geste par quoi elle s'était défaite de ce souvenir malencontreux. Et le vilain mot de prestidigitation s'imposait maladivement à mes lèvres, et je passais le reste de la matinée à vouloir le lui prononcer, avec l'idée que ma langue y faillirait et que toute cette subtilité sentimentale s'achèverait dans le rire bébête qui accompagne un mot écorché. Oh, tout cela fut très pénible et amer. Je tentais de me distraire en parlant de la touchante harmonie des bons moines de Saint-Marco, qui s'adonnèrent, comme on sait, à la fabrication des baumes et des parfums, dans l'enceinte de ses murs tout imprégnée de l'odeur de frère Angélique. Marie, qui lisait tout sur ma figure, résuma d'un mot l'état de nos esprits et, coupant une de mes phrases, elle l'acheva ainsi. « Mais nul baume et nul parfum, dit-elle, ne put sans doute effacer le relent de frère Jérôme Savonarole. » Je souris, voulant lui prouver qu'au contraire, j'oubliais tout. Mais elle comprit bien que ce n'était pas vrai. Un peu de gêne demeura entre nous. Mon dépit fut qu'elle attribua mon malaise à la jalousie. En réalité, il venait de la petite prestidigitation de ce mouvement preste et dissimulé, par quoi elle avait anéanti si délibérément, en somme et tout de même, un souvenir. Madame Vitellier saisit l'occasion de notre silence pour s'approcher de moi et m'entretenir, prononça-t-elle, de choses sérieuses. Notre rencontre à Florence ne pouvait plus être tenue cachée. Le bruit d'un instant à l'autre pouvait en parvenir à Paris. Quant à elle, elle ne se sentait plus de force à porter le poids d'un secret si considérable. Elle allait rentrer aussitôt à son appartement et écrire la vérité à M. Vitellier. Elle dit cela du même ton qu'elle eût prononcé par exemple « Vous voyez la pauvre femme que je suis, et qui n'a jamais cherché ni midi à 14 heures, ni autre chose que sa tranquillité, eh bien, je vais aujourd'hui dynamiter mon hôtel. » Je sentis se lever au fond de moi je ne sais quel petit ricanement forceux que la grande sincérité de cette femme arrêta. Elle n'exagérait rien. J'étais sans doute la seule personne au monde que la nature de son trouble et l'héroïsme incontestable de sa décision ne pouvaient émouvoir. Et c'était pour moi qu'elle se trouvait en si grande confusion et qu'elle allait mettre le feu aux poudres. Je crois à la réflexion que mon mouvement d'hilarité ne vint même pas d'elle, mais du contraste qui éclata tout à coup entre sa grande préoccupation et ce qui se faisait le fond de la mienne. L'étincelle de ce contact m'éclaira vivement sur moi-même. Bon, je ne suis pas trop fier de ce que je vis. Malgré l'intérêt immense que devait avoir pour moi l'aveu de la détermination de Madame Vitelier, malgré que je reconnusse toute la nécessité de cette détermination et que j'eusse dû dès auparavant y réfléchir abondamment et en mesurer la portée, cette affaire me parut intimement à 100 lieues de mes réels soucis. Je ne pensais qu'aux minutieuses et dernières péripéties de ma passion pour Marie. Voir clair dans la manœuvre prompte et habile du petit étui de cuir et dans la psychologie de ma propre contenance vis-à-vis de cet événement me semblait mériter toute l'attention du monde. Et dans le moment que je m'époumonnais à l'importante découverte d'une minute de la vie de sa fille, cette femme venait me parler de remuer ciel et terre parce qu'il s'agissait précisément d'épouser sa fille. Décidément, les personnes qui s'intéressent à régulariser les passions en ignorent jusqu'au premier mouvement. Toutefois, quand le sourire affleura ma lèvre, c'était déjà contre moi-même qu'il était dirigé et je me moquais de ma puérilité. Certainement, me dis-je en me redressant et me serrant les flancs pour me donner du corps, voici l'heure d'être sérieux, ainsi que dit cette dame. Tenons-nous, que diable, et formons-nous la représentation de la nouvelle arrivant à l'avenue Henri Martin, demain soir, je suppose, dans la soirée. Monsieur Vitelier, ayant dîné au cercle, monte alerte et la lèvre fraîche, l'avenue des Champs-Élysées. Si tout va bien, il n'est pas impossible que Monsieur Harrigan lui donne le bras et ne vienne jusqu'à l'hôtel fumer un cigare. Mon cher Harrigan, des nouvelles de ma femme? Ah oui, comment vont ces dames? Oh, mais pas mal, pas mal. Ma fille est même pâmée dans les bras de Monsieur André X. Je revis la figure du banquier, ce soir d'automne dernier, quand je lui demandais la main de sa fille, alors qu'il avait autour de lui encore tout le rempart légal et que d'un signe de doigt, il pouvait m'écarter de sa vue. Je me rappelais exactement la coloration de sa joue, la vibration de sa narine. Cet homme-là, me dis-je, va être frappé d'une attaque d'apoplexie. M'écoutez-vous, monsieur André, me dit Madame Vitelier. Le ton suppliant qu'elle employa et cette attention inusitée de m'appeler par mon petit nom m'attendrirent tout en m'attristant. Elle m'appelait à son secours et elle en avait tous les droits. Cependant, ce petit nom, cette familiarité équivalait à une sorte de prise de possession de moi. Elle me faisait sentir pour la première fois sa maternité. Je fus honteux de comprendre si peu le rôle où j'étais fatalement entraîné. Je me rendis compte tout à coup de la nécessité où j'étais de le remplir convenablement et sur le champ, remettant à plus tard d'en examiner mieux les différents aspects. Je crois même que je fus filial, empressé, touchant même. Je me sentais tout auréolé de bonté. Je me croyais sincère. Je fis grand bien à la pauvre Madame Vitelier. Mais Marie, que je regardais à la dérobée, ne paraissait nullement atteinte par ce flot soudain, et sa lèvre avait je ne sais quel petit pli d'ironie, très apparent dans la tristesse de son visage. « Qu'avez-vous ? » lui dis-je en lui serrant la main, tandis que sa mère montait en voiture. Elle avait presque les larmes aux yeux, et le petit pli d'ironie qu'elle voulait garder s'effaça sous mes yeux dans la contraction qu'elle fit pour le retenir. « Ah, mon pauvre ami, prononça-t-elle, où vous ai-je entraîné ?» Elle sauta dans la voiture d'un mouvement de fillette. « À tantôt !»« À tantôt, oui. Venez nous prendre pour Fiesole et Casa Santidio. »« Casa Santidio !»